Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de la grande tchatch, le rendez-vous politique du journal Le Ravi en partenariat avec Radio Grenouille. Bonjour Michel Guéraud.
Bonjour Rafi Amal.
Avec nous pour cette émission, Yvan Berland, ancien président de l'université d'Aix-Marseille, médecin néphrologue à la Timone et désormais candidat soutenu par La République En Marche pour la mairie de Marseille. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Yvan Berland, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Il vous a fallu patienter longtemps dans la salle d'attente, mais c'est fait. Les instances parisiennes d'En Marche, sous l'œil attentif d'Emmanuel Macron, ont finalement tranché. Le bon remède pour soigner Marseille, la belle meurtrie, l'éternelle convalescente, ce serait donc vous. Médecin, toujours en exercice à l'hôpital public de la Conception, et pas de la Timone, votre spécialité, c'est la néphrologie. Vous combattez les affections des reins. De quoi peut-être séduire les électeurs, souvent abstentionnistes, qui en ont plein le dos. Même s'il faudra leur expliquer que le mal au rein n'a rien à voir avec le dos. Comprenne qui peut. Mais revenons à nos moutons et à nos élections. Soutenu par le parti du président, vous n'en êtes pas adhérent. Et alors que, d'ici les municipales, en mars prochain, vous aurez fêté votre 69e anniversaire, vous n'avez jamais été membre d'un parti politique ni candidat à la moindre élection politique. Pourtant, l'exercice du pouvoir, vous connaissez. D'abord, comme directeur de service hospitalier à Sainte-Marguerite, puis à la Conception. Ensuite, en tant que professeur des universités. Jeune doyen à 47 ans, de la fac de médecine de Marseille, vous avez plus tard préparé la fusion de trois universités de la métropole marseillaise. Et vous avez, dès la création en 2012 de ce nouveau mastodonte, présidé l'AMU, ex-Marseille Université, autoproclamée première université francophone, avec ses 8 000 salariés et ses 78 000 étudiants. Réputé à l'époque proche de Valérie Pécresse, alors ministre de Nicolas Sarkozy, votre volonté de batailler pour vendre la marque AMU sur le marché mondial de l'éducation n'a pas fait que des heureux parmi les défenseurs du service public. Et si tous vous reconnaissent comme un gros bosseur, vous avez aussi laissé le souvenir chez certains syndicalistes d'un homme parfois autoritaire. Vous préférez rappeler votre goût pour le foot, lycéen, gardien de but, vous auriez même pu prendre le chemin d'une carrière professionnelle. Vous voilà finalement lancé dans le mercato électoral pour devenir maire de Marseille. De meeting en marathon médiatique, de marché en réunion, à 2 mois de l'échéance, la pression va vite monter. À vous, docteur, de convaincre que, face aux urgences, votre prescription est bien la bonne et ne sera pas une nouvelle potion amère.
Yvan Berland, une réaction à ce portrait, la sauce ravie.
Il est assez exact. Il y a une petite inexactitude, c'est quand on laisse penser que on a autoproclamé AMU comme la plus grande université du monde francophone. Ben non, AMU est la plus grande université du monde francophone.
D'accord. Yvan Berland, la France connaît un mouvement social de grande ampleur contre les réformes des retraites, ça vous a pas échappé. Le Premier ministre a présenté la réforme qu'il entend mettre en œuvre. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas apaisé les tensions, puisque désormais même le syndicat de la CFDT est hostile au projet. Une réaction là-dessus ?
Oui, effectivement, là, il y a des tensions dans le pays. Alors moi, je pense qu'il faut continuer à discuter, puisque... Mercredi, le Premier ministre a précisé son projet, après avoir discuté de longs mois avec les organisations syndicales, quelles qu'elles soient. Maintenant que le projet est précisé, eh bien, il faut rediscuter, il faut continuer à discuter pour arriver à un projet plus partagé que ce qu'il est aujourd'hui.
Alors. Plus partagé qu'il l'est aujourd'hui. En même temps, on ne comprend pas grand-chose à cette réforme. Il y a la ministre Elisabeth Borne, ministre de l'écologie, qui maintient, elle, le régime spécifique des routiers, qui leur permet de partir, eux, à 57 ans. L'origine de ce projet de réforme, c'était pour enlever les spécificités et faire un mode universel, c'est ça ? On n'y comprend plus rien, là.
Oui, c'est pour avoir un projet plus universel, qu'on sorte des spécificités de telle ou telle profession ou telle ou telle
métier. Et si on les réinstalle, ça rime à quoi ? Entre les policiers, les routiers, les pompiers ?
C'est une question.
Michel ?
Est-ce qu'il n'y a pas un défaut de méthode, pour le moins, dans la gouvernance Macron, sur cette promesse qui avait été finalement d'une gouvernance apaisée, ni droite ni gauche ? Finalement, on voit avec la position de la CFDT, syndicat réformiste, une grande difficulté à discuter avec les corps constitués. Et finalement, des phénomènes du coup de radicalité type gilets jaunes. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun intermédiaire entre le gouvernement et si on n'écoute pas les syndicats, si on ne dialogue pas avec eux. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette façon d'avancer?
Écoutez, moi j'ai dirigé l'université d'Aix-Marseille. Vous disiez que j'étais autoritaire. Non, j'étais convaincu. Mais j'ai beaucoup discuté avec les organisations syndicales et je crois que elles s'en sont pas plaintes. On n'était pas toujours d'accord. Mais si je regarde le bilan des votes, et je l'ai fait, les organisations syndicales en comité technique, par exemple, il n'y a pas eu, je pense, une séance où, d'abord, où toutes les organisations syndicales ont été contre ce que je proposais. Et dans la très grande majorité, les organisations syndicales suivaient les propositions.
D'accord. Et le gouvernement, là, c'est sa capacité de dialogue social.
Et je trouve que le dialogue social est excessivement important. Je peux dire qu'un certain nombre de fois, ça m'a empêché de faire des bêtises.
Sur le fond, cette retraite à points qui inquiète beaucoup de fonctionnaires, hein, notamment, et des corporations que vous connaissez bien, en particulier les enseignants, les chercheurs sont aux avant-postes là, de cette bataille sociale, sont très inquiets sur la dégradation finalement de leur future pension, sur la mise en place d'un système plus anglo-saxon, avec peut-être plus de place pour les fonds de pension à l'arrivée, parce que les pensions auront diminué à terme.
Oui, alors d'abord, je pense que ça manque un peu de précision et chaque travailleur n'a pas la possibilité de bien comprendre ce qu'il attend. Probablement par des explications qui n'ont pas été suffisantes. Et aujourd'hui, je pense que le gouvernement doit d'une part travailler pour continuer à dialoguer avec les organisations syndicales et d'autre part mieux préciser ce que cette réforme apportera, voire enlèvera, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que finalement, c'est souvent la non-compréhension ou l'incompréhension qui génère des peurs, parfois, chacun d'entre nous, hein, souvent, parfois pas justifiées, mais que l'on ressent. Quoi.
Yvon Berland, on a vu des ministres qualifier le président de la République de très intelligent, trop intelligent pour être compris. C'est ce que vous êtes en train de dire en filigrane, que le peuple ne comprend pas assez?
Non, que le président soit intelligent, c'est fort probable, mais il faut probablement améliorer aussi l'explication. Pourtant, bon, Agnès Buzyn, que je connais bien, est aussi là dans l'action. C'est un médecin, donc pragmatique. Je peux pas imaginer qu'elle n'explique pas avec précision les choses. Bon, il faut continuer, il faut continuer. Quand c'est pas acquis, il faut continuer.
Quand le pays est en crispation comme ça, quand la mobilisation embrase beaucoup de catégories de la société, ça va du fonctionnaire, ça va aussi de l'artisan, les syndicats. Le recul est une option?
Moi, je pense que quand une très grande majorité du pays ne comprend pas, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'il faut modifier de manière significative pour être avec une adhésion un peu supérieure à ce qu'elle est actuellement.
Michel.
Vous parlez d'Agnès Buzyn, mais le secteur hospitalier, que vous connaissez bien, on l'a souligné, et aussi à feu et à sang, en tout cas socialement, hein, c'est une image, avec un mouvement, une mobilisation quand même interprofessionnelle assez rare, assez forte, parallèlement à ce conflit.
Oui, alors ça m'emmène à préciser que, je ne parle pas des retraites, hein, mais tout un tas de conflits, finalement, sont l'aboutissement d'années, de nombreuses années, on n'a pas réglé les problèmes. Et vous parlez du secteur hospitalier, je connais bien. C'est pas ce gouvernement qui a la responsabilité de la situation actuelle. Hein. C'est de multiples gouvernements qui n'ont pas pris la mesure de l'évolution des hôpitaux, du service public hospitalier. Et aujourd'hui, eh bien, tout le monde se lève, mais c'est pas récent. Et je connais très très bien le sujet.
La PHM, par exemple, c'est une dette de 800 000 heures par rapport aux agents. C'est le seul, en tout cas, des congés non pris ou du travail payé que le CHU doit à ses 12 000 agents, 800 000 heures.
Oui, je sais, mais vous imaginez que c'est pas l'accumulation des deux années, là. Ça fait de très nombreuses années que ça s'accumule et que le sujet n'a pas été réglé.
Michel.
Donc vous êtes pas affolé par ce climat social qui quand même témoigne d'un pays au bord de la crise de nerfs.
Alors, je suis inquiet et j'ai envie que les sujets soient réglés les uns après les autres. Oui, j'en ai envie parce que je suis un citoyen avant tout et j'ai envie que on ait dans ce pays de nouveau l'apaisement, le bien vivre ensemble, la volonté de d'avancer. Et donc, bien évidemment, j'ai envie que les problèmes soient réglés. Mais je ne suis ni président de la République, ni ministre.
En même temps, vous êtes solidaire du fait d'avoir le label en quelque chose, La République en marche. Vous qui êtes dans l'enseignement, vous avez des étudiants qui se sont immolés en France, qui se sont immolés pour une situation sociale catastrophique. Et vous êtes malgré tout toujours solidaire et vous représenterez La République en marche au municipal à Marseille.
Alors, d'abord, vous avez bien vu que c'était pas une investiture à La République en marche, mais c'était un soutien.
On reviendra là-dessus. Vous préciserez la nuance.
Un soutien, parce que et cela a été précisé dans le portrait que vous avez fait de moi. Je suis pas un homme politique depuis. J'ai pas fait de carrière politique. Je suis un citoyen qui a envie de montrer que chaque citoyen peut s'impliquer au plus haut niveau dans la vie de la cité. C'est ça qui m'anime. Hein.
Il n'empêche, cette semaine, votre premier meeting à Marseille va se faire aux côtés de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur et qui a fort à faire en ce moment avec les mouvements sociaux. Vous êtes donc parrainé par ce gouvernement et vous allez devoir
je suis soutenu par La République en marche.
Oui. Oui. Et Christophe Castaner, donc, à vos côtés, à Marseille, dans ce meeting de lancement, c'est un honneur pour vous.
C'est vous qui l'avez demandé?
Alors, d'abord, moi, je ne demande jamais rien.
Oui, bien sûr.
Mais que Christophe Castaner...
Vous avez demandé l'investiture, en tout cas.
Absolument.
Oui.
Ça, oui, j'ai déposé un dossier. Je vous l'accorde. Maintenant, je pense que j'ai rien fait de mal jusqu'à présent. J'ai pas porté atteinte à qui que ce soit. Dans ce que j'ai fait dans mon parcours, aussi bien comme médecin que doyen d'affecté de médecine, que président d'université, je veux bien qu'on compare mon bilan à beaucoup d'autres. Vous me jugerez sur les faits si un jour je suis maire de Marseille.
Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est vous qui avez demandé la présence de M. Castaner, ministre de l'Intérieur?
Christophe Castaner s'est proposé.
La campagne va être gérée par vous ou c'est Paris qui va...
Ah, vous savez, moi, vous ne me connaissez pas. Hein. Personne...
On va apprendre
personne,
à vous connaître.
Personne ne me fait faire des choses que je ne veux pas. C'est un peu ce que vous disiez dans mon portrait, d'ailleurs.
Michel.
Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, mouvement social, il est critiqué aussi par rapport à la façon d'administrer l'ordre, finalement, au cours des manifestations. Il y a eu, dans d'autres circonstances à Marseille, des moments dramatiques. Je pense à la mort de Zidem Redouane, une octogénaire, en marge d'une manifestation autour du logement. Une jeune Maria, aussi 19 ans, qui a été tabassée par la police, crâne fracturé, cerveau atteint à Marseille, une enquête est en cours. Est-ce qu'il y a des dérapages? Est-ce que vous les regrettez, y compris dans la façon de maintenir l'ordre dans le pays?
Alors, si vous voulez, bien sûr que je regrette les dérapages, bien sûr que je regrette profondément ce qui est arrivé aux personnes que vous venez de signaler, bien évidemment. Hein. Après, il faut aussi considérer que il y a eu parfois des agissements, notamment à Paris, pas à Marseille, hein, pas à Marseille, qui ont été particulièrement violents, quoi.
C'est-à-dire
de la part de certains manifestants, si on peut appeler ça des manifestants.
Voilà. Donc en gros, ça justifie...
Ça c'est vous qui interprétez. Je suis en train de vous dire que il y a eu des interventions des forces de l'ordre que je regrette profondément, inadaptées.
Il y a des dizaines d'éborgnés.
Oui, oui, non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Et de l'autre côté, il y a eu des agissements qui ont été aussi très délétères.
Michel?
L'investiture, qui n'est pas une investiture, mais qui est un soutien, alors on y arrive, ça a mis du temps. On a cru comprendre que vous étiez un peu agacé, d'ailleurs, du temps que ça a pris, et vous n'étiez pas le seul. Pourquoi?
Alors, effectivement, je suis un impatient chronique, et j'ai appris la patience, là. Comme quoi on apprend à tout âge. Et à un moment donné, j'étais un petit peu agacé, pour tout dire. Je pense que ma candidature quand même intéressait, et je l'ai bien compris, et c'est pas dans les derniers jours que j'ai compris que ma candidature intéressait pour l'avenir de Marseille.
C'est important, là, ce distinguo là, linguistique dont on a parlé, soutien,
oui,
investiture.
Très important.
Ça veut dire que vous êtes un peu dehors et vous voulez rester dehors?
Moi, je veux être société civile et surtout, je veux rassembler le maximum de citoyens au-delà des étiquettes, au-delà des logos, et c'est ça qui m'anime. Voilà.
D'accord, vous n'êtes pas encarté La République En Marche?
J'ai jamais été encarté dans aucun parti.
Alors, recoudre notre ville, c'est une de vos formules. La question du rassemblement dans votre propre camp se pose. Comment ça se passe?
Écoutez,
vous étiez 3 à l'origine candidats.
On était 5 à l'origine candidats. Enfin, je ne sais plus qui était candidat et qui n'était pas candidat, hein, finalement.
À l'arrivée, votre impatience à vous a pesé plus que celle des autres.
Faut dire les choses. Une candidature qui était certaine, que je sais avoir été certaine très tôt, c'est celle de Saïd Hamada. Parce que, comme vous le précisiez, il y a eu un dépôt de dossier, comme moi. En tout cas, celle-là, elle était certaine. Et Saïd, très rapidement, a souhaité que l'on fasse équipe, que l'on travaille ensemble. Et je m'en réjouis parce qu'il a une connaissance de la ville. On est très complémentaires. Et je pense qu'ensemble, on va faire un très beau travail pour Marseille. En tout cas, j'espère que tout ça va se concrétiser.
Et le troisième personnage dont le nom m'échappe, mais Michel Guéraud va m'aider, qui a toujours pas donné de nouvelles. Est-ce qu'il vous rallie? Est-ce qu'il continue?
Ben, je ne sais pas, vous dites troisième, hein, mais il y avait trois autres candidats.
Hein. Voilà, oui.
Il y avait trois autres candidats, hein, puisqu'il y avait également Johan Bensivenga, dont on a parlé, hein, il y avait Corinne Vezzoni, il y avait Agresti. Bon, ces trois candidats, on en a parlé aussi.
Ouais. Donc vous avez toujours la main tendue pour un rassemblement?
Bien sûr.
Vous commencez à attraper des crampes, vu que la campagne se réduit?
Non, je fais suffisamment de sport pour ne pas attraper de crampes.
Alors, dans vos premières déclarations, vous dites que Marseille n'est pas à la veille d'une alternance, mais d'une véritable alternative. Et peut-être avant de commencer à évoquer avec vous, même si le programme n'est pas ficelé, j'imagine, à cette date, de vos propositions, de vos premières idées, il se pose la question dans cette phrase que vous faites du bilan des sortants qui sont en place depuis longtemps, hein, 25 ans, Jean-Claude Gaudin. Quel est votre regard, en fait, sur cette ville, sur la façon dont elle est gouvernée? Et pourquoi, dites-vous avec force, qu'il faut une alternative à cette gouvernance?
Pour deux grandes raisons. La première raison, c'est qu'il y a des sujets qui n'ont pas été correctement traités. Il y en a plusieurs. Vous voyez que dans les derniers classements qui sont parus hier ou avant-hier, on est en queue de peloton s'agissant de l'air. Mm-hmm. Donc le sujet écologique n'a pas été pris au niveau où il aurait dû être pris. Un autre sujet qui me tient énormément à cœur, puisque j'en fais vraiment l'éducation, j'en fais le fil rouge de mon programme et de notre programme. On voit bien qu'au niveau des écoles, la réaction a été très tardive. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu de warning, de signal d'alerte avant, parce que c'est essentiel. Il n'est pas possible de demander à des enfants qui vont devenir adultes de respecter la République si à un moment donné ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas été respectés. Au moins deux de ces sujets là qui sont majeurs, qui n'ont pas été correctement traités.
On peut s'arrêter sur les écoles un petit peu. Alors, un sujet qui a fait beaucoup débattre, c'est le partenariat public-privé, qui était une des réponses de la municipalité pour rénover les écoles à Marseille, en tout cas 34 des écoles, face à cette proposition, un collectif d'habitants, d'élus, de parents d'élèves qui ont obtenu des résultats au niveau juridique. Il y a un appel en cours. Pour autant, là, c'était lundi, le rapporteur public de la Cour d'appel de Marseille a donné un avis négatif sur le projet d'un PPP, partenaire public-privé, pour rénover les écoles. Donc, on attend le résultat. Là, vous, si vous étiez maire de Marseille, qu'est-ce que vous feriez par rapport à ce cas précis d'un partenariat public-privé? C'était une fausse bonne idée ou alors pourquoi pas?
Alors, je vais être très clair là, hein, comme toujours, je pense. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, je vais être très clair. Le partenariat public-privé a des avantages et des inconvénients. Avantage, ça vous permet d'aller plus vite. D'aller plus vite que dans des processus différents. Deux inconvénients, c'est que souvent, ça coûte cher.
1 milliard d'euros, en l'occurrence, là.
Et deuxièmement.
34 écoles, ça fait beaucoup.
Et deuxièmement, autre inconvénient, c'est que souvent, ça fait travailler les grosses entreprises, et pas les petites entreprises du territoire. Donc c'est vraiment deux sujets importants. Ceci étant, pour moi, si je suis maire de Marseille, et j'espère l'être, c'est un sujet urgent, d'urgence. Voilà. Vraiment traiter, mettre... Vous savez, les finances de la ville, d'ailleurs, dès que j'arriverai, si j'arrive à être maire, ce que j'espère et je crois, il y aura un audit financier.
Comme tous les maires quand ils sont nouvellement élus.
Il y aura des choix à faire. Et un choix qui ne se discutera pas, c'est celui de financement apporté pour mettre en état les écoles.
Mais un financement, comment? On revient à la question de Michel Guiraud.
PPP ou pas PPP?
Public-privé ou pas?
Mais non, ça ne sera pas un PPP, là. D'ailleurs, pour 34 écoles, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire.
1 milliard?
Oui.
La ville est surendettée?
Oui, mais on trouvera l'argent. Vous savez, l'argent, il faut aller aussi le chercher. Et je pense, notamment, ce que j'ai fait à Aix-Marseille Université, aller chercher de l'argent à l'Europe. Il faut que vraiment... on dépasse notre fonctionnement marseillo-marseillais, qu'on considère que Marseille est une grande ville, dans une grande métropole, dans un grand pays européen. L'Europe fait des appels à projets de nature financière vraiment importants. Il faut avoir le professionnalisme pour aller chercher de l'argent aussi à l'Europe.
D'accord. Donc pour les, je vous informe du chiffre, hein, peut-être que vous le connaissez pas, les 470 écoles de Marseille, il n'y aura pas de partenariat public-privé si vous êtes élu pour les rénover, parce que même la Chambre régionale des comptes pointe le fonctionnement des écoles. Et le reste de votre mandature, si vous êtes élu, vous ferez appel souvent, parfois, jamais, au financement public-privé?
Pour regarder, c'est difficile, hein. Je peux pas vous répondre comme ça. Honnêtement, là, on parle beaucoup des écoles, qui est pour moi une priorité. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur la table? Je ne les connais pas. Voilà.
Alors, un autre sujet qui est sur la table, en tout cas, un enjeu majeur à Marseille, le logement, avec quand même une année particulière d'effondrement, pour sans faire de mauvaises métaphores, la rue d'Aubagne, 8 morts, le logement indigne. On a fêté le triste anniversaire il n'y a pas très longtemps. C'est un dossier qui vous interpelle. Et comment, là aussi, pensez-vous qu'on peut redresser la situation?
Alors, vous savez, dans le projet qu'on a écrit, qui continue, bien entendu, à s'enrichir, il y a des urgences. J'ai parlé tout à l'heure des écoles. L'habitat est une urgence. Vous savez que l'État est venu à plusieurs reprises. Il y a un plan qui a été décliné. Bien entendu, il faut que ce plan soit mis en œuvre, que l'argent qui est débloqué soit utilisé en temps et en heure, parce que souvent on s'aperçoit qu'il y a de l'argent qui est mis mais qui est pas utilisé. Et je sais qu'il y a de l'argent, malheureusement, qui n'a pas été utilisé assez rapidement. Donc c'est un dossier qu'il faut suivre avec une très très grande vigilance, et pas perdre de temps, pas perdre d'énergie. Il y a un plan qui, je crois, a été bien constitué avec l'État. Il faut y aller, et vite, quoi.
C'était la députée Alexandra Louis qui était à votre place dans la Grande Chatch il y a quelque temps, qui disait Marseille est en échec total dans la lutte contre le mal logement, et elle remonte au fameux rapport Nicole qui indiquait 40 000
2015.
Logements. Voilà. Vous partagez, elle disait ici même, je suis particulièrement en colère, qu'a fait la mairie de Marseille? Elle a refermé le rapport et elle l'a mis dans je ne sais quel tiroir. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu comme ça?
Mais force est de constater, c'est pas un sentiment. Sentiment, vous savez, c'est quelque chose qu'on partage ou qu'on partage pas. Ça, c'est une réalité. Donc, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est une réalité, c'est un constat, et il n'est pas discutable.
Il n'est pas discutable. Juste une question en aparté, Yvan Berland. En tant que professeur des universités, doyen, etc., vous êtes soumis à un devoir de réserve?
Je suis plus doyen, je suis plus président d'université, et quand on est effectivement dans une fonction de ce type, oui.
Parce qu'on vous a pas beaucoup entendu sur votre indignation sur le logement, les écoles, pourtant les journaux sont friands de personnalités qui sont prêtes à s'exprimer.
Oui, mais les personnalités qui s'expriment, moi j'ai toujours, vous avez vu, je me suis jamais engagé en politique tant que j'ai eu des fonctions de service public. Parce qu'on a un devoir de réserve.
L'indignation, vous la mettez dans le cadre du politique?
Je me suis jamais engagé dans une fonction politique. Il a fallu que je termine ces mandats, que je n'ai plus de mission pour m'engager. Et je m'engage à fond actuellement. Avant, je considérais que j'avais un droit de réserve. Ça dépendait du niveau quand même.
Michel. Alors il y a des symboles. On parle de la rue d'Aubagne, mais c'est tout récent. La région a reconduit Xavier Cachard au conseil d'administration d'Aix-Marseille Université, l'ancien vice-président budget de la région. Xavier Cachard qui était un des propriétaires de l'immeuble au 65 rue d'Aubagne qui s'est effondré. Cela choque un certain nombre de personnalités, une pétition qui tourne et d'organisations. Vous, ça pose la question de la responsabilité des élus et de ce... La probité de... Alors, il n'y a pas de jugement pour l'instant, mais...
Bon, alors d'abord, vous avez raison. Pour le moment,
Il est nommé au CA de l'université Aix-Marseille.
Par la région.
Il faut quand même noter qu'une des victimes de la rue d'Aubagne était
une étudiante,
de l'université. C'est quand
même... Je connais bien sa famille. Je connais beaucoup de choses sur cette histoire que... Voilà, que j'ai vécu en... Je dirais de manière très douloureuse. Il y a un représentant de la région, comme il y a un représentant de la ville de Marseille, comme il y a un représentant de la ville d'Aix au conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille.
Xavier Cachard, c'est la personne idoine?
Non, c'est moi terminé. Je dis qu'il y a un représentant de ces collectivités et il appartient en général à la collectivité de voter. La représentativité de ces personnes.
Et aujourd'hui, que vous, avec votre casquette de candidat à la mairie de Marseille, avec ce que vous défendez en termes de renouvellement, est-ce que vous pensez que ce type de symboles sont pas malencontreux?
C'est sans doute pas le meilleur choix qu'ait pu faire la région.
Alors vous êtes nouveau en politique, on le dit, on le redit, on apprend d'ici d'ailleurs à vous connaître. Vous dites, vous souhaitez innover dans la manière de gérer une ville, si j'en crois le rapport de la Chambre régionale de comptes, la ville n'a pas été bien gérée, il y a un problème de transparence. Et vous proposez tous les 6 mois de faire de rendre compte de manière claire, je ne sais pas trop comment d'ailleurs, à la population.
Vous savez... Je vous dites que je suis nouveau dans le monde politique, mais j'ai exercé des fonctions importantes. Et ces fonctions importantes m'ont appris un certain nombre de choses. D'abord, à dialoguer avec les organisations syndicales. Ensuite, à dire régulièrement ce que je faisais. C'est-à-dire que tous les mois, par exemple...
Excusez-moi de vous couper régulièrement, mais dialoguer avec les organisations syndicales. Par exemple, est-ce que vous irez au rassemblement de FO comme le faisait Jean-Claude Gaudin?
Écoutez, vraiment, là, vous me posez des questions d'une précision pour laquelle je suis incapable aujourd'hui de répondre. Ce que je ferai.
Oui.
Non, mais peut-être que ça vous choque, mais vous me posez des questions, j'ai le droit d'avoir des réponses.
Si maintenant, non, c'est parce que normalement, ça ne se fait pas.
Mais écoutez, vous posez les questions, je réponds. Mmh. D'accord? Les réponses m'appartiennent et les questions, c'est votre choix. Ce que je veux dire quand je dialoguais avec les organisations syndicales, c'est que 3-4 fois par an, je rencontrais toutes les organisations syndicales, et donc il y avait un dialogue, toutes les organisations syndicales, et pas une ou l'autre, etc. Je pense que ça répond en grande partie à votre question. Le deuxième point, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, en comité technique, j'étais également toujours présent. Et enfin, il est très important de maintenir ce dialogue sans exclusive, ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire qu'à l'université, je n'ai pas rencontré que l'organisation syndicale qui était majoritaire, je rencontrais toutes les organisations syndicales régulièrement. Et alors, pour aller dans votre question précise, tous les mois,
j'envoyais...
Non.
Tous les mois ?
À l'université. Tous les mois, j'envoyais une note de politique. Voilà ce qu'on a fait. Pour que toute l'université, l'université c'est pas la ville, toute l'université soit informée de ce qui était fait ou ce qui se préparait. De la même manière, je pense que l'évaluation est très importante. Ça aussi c'est la culture académique, hein, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des organes externes qui régulièrement puissent évaluer ce qu'on est en train de faire.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, le Ravi, avec nous, Yvan Berland, candidat à La République En Marche, soutenu en tout cas par La République En Marche, pour les municipales de mars.
Et donc, dans La Grande Tchatche, depuis la rentrée, on demande à l'invité de diffuser un titre de la musique, et vous avez choisi, vous nous direz pourquoi après, Je te donne, de Jean-Jacques Goldman.
I can give you a voice bred with rhythm and soul. The heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring. Carry thoughts in the songs we sing.
Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine. Que je crois, je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais les standards des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux.
I can give you the force of my ancestral pride, the will to go on when I'm deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day.
Je te donne nos doutes et notre indicible espoir. Les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brunes et l'on parle un peu fort. Et l'humour et l'amour sont nos trésors.
Je te donne toutes mes tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut.
Jean-Jacques Goldman, je te donne, il faut y tirer un sens de cette chanson.
Trois raisons. D'abord, j'aime bien Jean-Jacques Goldman.
Un ancien Marseillais.
Deuxième raison, ancien Marseillais. Troisième raison, donner, c'est beau, quoi. Donner son amitié, donner du temps, donner et puis j'aime bien cette chanson, voilà, tout simplement.
D'accord. Revenons à vos premières déclarations et aussi à la CRC. On fait le pont. Vous dites je veux m'appuyer sur les 12 000 fonctionnaires de la municipalité, hein, redonner du sens à leur métier, les responsabiliser, etc. Le rapport de la Chambre régionale des comptes sur le bilan Gaudin est très très sévère sur la façon dont est géré le personnel à Marseille. Insuffisante durée du temps de travail, des postes maintenus au-delà de l'âge de la retraite. Ça va pas être facile à gérer ça pour le prochain maire. Comment rétablir la confiance sur ce terrain-là?
Je pense qu'il y a deux sujets. D'abord, quand même, on regarde hein, où ça en est, ce qui se passe, etc. Il y a une nécessité de mettre de réelles compétences là où il faut qu'elles soient. Et les postes de responsabilité, c'est de la compétence, c'est pas simplement de l'amitié ou je ne sais quelle autre raison. Le deuxième point, je suis convaincu, peut-être que l'avenir me montrera le contraire, que en donnant de nouveau un sens à leur engagement, à leur métier, à leur positionnement, aux 12 000 employés, eh bien, on va arriver à les remotiver parce que pour que la ville fonctionne, il faut que ces 12 000 employés soient convaincus qu'on a besoin d'eux. Et je fais le pari Je fais le pari.
C'est la calinothérapie, Yvon Berland ?
C'est pas que de la calinothérapie, c'est leur parler. Vous savez, l'habitude que j'ai eue, quand on a fait la fusion des trois universités, c'était compliqué, hein. Il y avait des personnels de U1, de U2, de U3, ils étaient à Aix, ils étaient à Marseille. Il a fallu les voir, et j'ai fait en émoi 70 réunions où j'ai vu tous les personnels pour leur expliquer. Et quand je voyais qu'il y avait une difficulté qui était justifiée, je peux pas aller d'Aix à Marseille parce que mon enfant, etc., le problème a été réglé. Vous n'avez pas entendu parler de problèmes sociaux lorsque on a fait la fusion de ces trois universités. Et moi, je crois beaucoup au dialogue, et une chose que je ferai, par contre, c'est que je ne serai pas dans mon bureau toute la journée à la mairie. Hein. Je serai sur le terrain et je verrai les personnels.
D'accord. Vous dites une chose aussi, c'est donner plus de moyens et d'importance aux maires de secteur. Aujourd'hui, avec la loi PLM, le maire de secteur, c'est guère plus qu'un président de CEQ.
Tout à fait. Et ce n'est pas possible, et ça aussi c'est un point majeur de gouvernance qu'il faut modifier, ce n'est pas possible de traiter du bureau du maire sur le Vieux-Port tous les sujets de proximité. Ce n'est pas possible. Et donc mon intention, c'est justement, alors je vais employer un terme un peu technique, mais vous allez comprendre et les auditeurs comprendront ce que je veux dire, c'est d'avoir un contrat d'objectifs et de moyens, c'est-à-dire qu'on définisse les orientations que doivent avoir de manière générale ou spécifique en fonction de tel ou tel secteur, le secteur, qu'on mette des moyens à disposition.
C'est-à-dire des financements.
Des financements. Et que, je vous le dis, moi, je compte voir tous les maires de secteur toutes les semaines. Toutes les semaines.
Quelle que soit leur étiquette politique.
Et les financements seront en fonction des besoins des administrés et non pas en fonction de la couleur politique des mairies.
C'est les administrés qui comptent.
Michel ?
Avec une difficulté, 2023 euros de dette par habitant. La dette marseillaise est deux fois plus élevée que la moyenne des villes comparables. Tout ça fait...
Bien sûr.
Du coup, vous dites, j'ai peut-être dit une bêtise, non ?
Non, mais je garde cette option. Après, il y aura des choix. Hein. La vie est faite de choix et il y a des sujets prioritaires et des sujets moins prioritaires. Et donc, il faudra faire des choix.
Vous savez,
mon expérience, parce que mon expérience à l'université, c'est une gestion d'un budget de 750 millions. Mmh. Et j'ai laissé, quand je suis parti, 60 millions dans les caisses pour faire des choses.
Alors, on a parlé des mairies de secteur. Il y a aussi les associations, le monde associatif. On a l'habitude de dire que Marseille, le monde associatif est une chance pour cette ville. Néanmoins, ils sont un peu maltraités par la mairie, selon la Chambre régionale des comptes. Les subventions de fonctionnement, c'est 98 euros par habitant, contre 155 à Lyon ou encore 196 à Nice. Cela représente à peu près 62 millions d'euros par an. C'est pas beaucoup. Vous allez faire un effort sur les associations. Vous allez faire...
Alors, le monde associatif est très développé à Marseille. Il est d'une excessive importance. Le monde associatif règle beaucoup de problèmes dans cette ville.
Hein. Ouais. On n'est pas loin de glisser vers le clientélisme. Là.
Non, ce n'est pas du clientélisme. Il y a beaucoup d'associations avec beaucoup de bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles hein, dans les associations. Et donc, il faudra regarder effectivement quel type d'association, qu'est-ce que c'est qu'il faut mieux financer, moins financer. Très honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas un diagnostic précis et je vous dirai à peu près n'importe quoi ce que je ne sais pas faire. Dire n'importe quoi.
Vous allez mettre la politique du résultat quand même sur le monde associatif ?
Oui, bien sûr. Il faut qu'on ait des résultats. Si on finance, il faut être certain que ce financement sert aux citoyens, sert aux habitants.
Vous serez un maire qui sera capable de dire non ou je supprime ou je ne subventionne pas ?
Je sais pas, tout à l'heure quand vous avez fait mon portrait, vous avez dit que j'étais autoritaire. Alors, je vais pas changer. Hein.
Michel ?
Les transports, on a vu là une station de métro qui a mis 5 ans à être inaugurée, c'est fait. Est-ce que là aussi, le diagnostic est, vous rend malgré tout optimiste sur la capacité à remettre à niveau la Marseille dans sa métropole par rapport à ce sujet central ?
Non, c'est un sujet majeur. Et vous savez... Il y a deux options hein, dans les retards qu'a pris Marseille. Soit on se compare à d'autres villes et on dit on va essayer de rattraper les autres villes, soit au contraire on dit il faut être imaginatif, trouver d'autres solutions, et c'est la deuxième solution qu'il faut prendre. Au niveau des transports, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire transport, qualité de l'air, tout ça c'est lié, hein. C'est pas simplement le transport d'un côté, la qualité de l'air de l'autre. Il faudra aussi que les Marseillais et les Marseillaises comprennent que si on veut améliorer par exemple la qualité de l'air, il faudra réfléchir pour savoir si tout le monde continue à prendre sa voiture quand il veut, où il veut et comme il veut. Donc là il y aura aussi des vrais choix à faire. Après, effectivement, il n'y a pas assez de modalités de transport doux. Il faut qu'on soit attentif aux jeunes. Les jeunes n'ont pas les financements nécessaires pour prendre les transports en commun. Et là, il faudra prendre des mesures importantes.
Vous diriez sur des mesures de gratuité pour les jeunes ou
des mesures importantes.
Importantes.
La gratuité des transports, ce n'est pas comme à Aubagne, ce n'est pas quelque chose
des
qui...
Des mesures importantes.
Mais encore ?
Des mesures importantes.
Non mais... Donnez-nous quelque chose, une piste. Enfin, c'est un programme, c'est pas secret.
Écoutez, demain soir, j'ai un premier meeting. Et laissez-moi au moins la possibilité d'annoncer quelques petites orientations, quand même.
Yvon Berland, autre question bien précise cette fois-ci encore. Le cercle des nageurs, vous connaissez le cercle des nageurs, peut-être y êtes-vous adhérent ?
Pas du tout.
D'accord. Le très sélect club de natation des Catalans, où l'on entre par cooptation et moyennant paiement d'une cotisation, je crois que ça tourne dans les 3 000 euros à peu près, ou peut-être un peu plus même.
Honnêtement, je ne sais pas, je ne suis pas adhérent.
3 000 euros, touche 250 000 euros par an de subvention de la part de la mairie. Si vous êtes élu, vous continuez à subventionner un club privé ou pas ?
Alors, il faut regarder ce qui est subventionné. Vous n'ignorez pas qu'il y a ces adhérents là qui sont, je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup, hein. 4 000 autres comme ça, je crois. Oui. Mais il y a aussi un club sportif de très haut niveau. Et donc il faut savoir si ces financements sont nécessaires ou pas pour l'équipe de waterpolo. Vous savez, à Marseille, il y a l'OM et le waterpolo, hein.
Ouais, enfin, il y a surtout l'OM quand même, parce que le waterpolo.
Absolument.
Vous parlez d'un club de 4 000 adhérents à 3 000 euros.
Attendez,
même si j'ai fait lettre, ça fait beaucoup d'argent.
Attendez, si, oui, oui. Si vous regardez au plan sportif Marseille et que vous comparez à d'autres villes, Montpellier, par exemple, il y a un grand club de football. J'y suis très attaché personnellement. Et à un haut niveau, un club de water polo. C'est tout, hein. Il n'y a pas de rugby, il n'y a pas de basket, il n'y a pas. Donc, il faut aussi pouvoir maintenir des clubs de haut niveau parce que ça fait aussi des jeunes qui peuvent s'identifier à ces sports, s'identifier à ces champions. Donc, il faut regarder à quoi ça sert réellement. Et honnêtement, je ne le sais pas.
Le haut niveau, c'est bien, mais vous connaissez aussi la situation de Marseille avec, en termes d'équipement sportif, là aussi, beaucoup de retard. La natation publique,
un vrai effort à faire, oui.
Les piscines, oui.
Les piscines avec obligation dans les écoles publiques en charge, hein, responsabilité du maire de Marseille, les difficultés à assurer des créneaux horaires pour l'apprentissage de la natation.
Ah non, mais là,
c'est
y a...
ce contraste-là aussi qui
oui,
est sur la
oui,
table.
Oui,
avec
non, mais c'est vrai, il y a ce contraste. Mais je pense que c'est un engrenage, c'est-à-dire que si vous avez un ou deux clubs un peu emblématiques, les jeunes s'identifient, mais après il faut aussi donner à ces jeunes la possibilité, on parle de water polo, d'apprendre à nager, de se développer sur le plan de la natation dans leur quartier, et là il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts à faire.
Alors l'OM, vous venez d'en parler, mais là aussi la CRC, on l'aura beaucoup cité, mais enfin le rapport est quand même épais. Un loyer de 5 millions actuellement, et la CRC dit qu'il faudrait au moins monter à 8 millions. Là, vous pensez qu'il y a un déséquilibre, il y a quelque chose à rétablir, à corriger
Alors écoutez, moi je ne suis pas expert. Hein, la mairie donne 5 millions, l'OM donne 5 millions et la CRC dit 8 millions. Honnêtement, je suis incapable de commenter ces chiffres. Sur quel argument les uns et les autres donnent ces financements, il faut regarder sur le plan. Je peux vous dire que dans mon équipe, il y a quelqu'un qui a été chargé de faire une analyse très précise de toutes les remarques de la CRC qui va nous aider. On l'évoquait en aparté tout à l'heure pour le diagnostic.
Yvon Berland, au-delà du CRC, l'OM, le stade de l'OM. Vous êtes pour une privatisation de ce stade? Vous avez dit que vous étiez quelqu'un de pragmatique. Ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce que c'est logique qu'une municipalité entretienne un stade qui coûte très très cher?
Il faut regarder tous les tenants et les aboutissants. Et pour le moment, je ne suis pas en capacité d'apporter une réponse argumentée en dehors d'une réponse qui fuserait comme ça. Donc comme je suis quelqu'un de sérieux, j'attends d'avoir tous les éléments.
Michel. Alors la campagne, les élections, c'est dans 2 mois, le premier tour. Certains disent, beaucoup de commentateurs disent que vous allez faire une candidature de témoignage au premier tour et que vous allez vers une alliance avec probablement la candidate donnée favorite, à savoir Martine Vassal.
Et oui, c'est un truc là qui traîne,
oui.
Ça. Hein.
Oui, oui.
C'est un truc qui traîne, c'est incroyable. Je l'ai vu l'autre jour, on a réuni les équipes et je leur ai parlé de tout ça. Écoutez, je sais pas d'où ça vient, je sais pas d'où ça traîne. Peut-être que dans peu de jours, vous aurez des surprises.
Alors, on se souvient, c'était en juin, de Brigitte Macron descendant à Marseille et déjeunant avec Martine Vassal, Jean-Claude Gaudin. On se souvient de notre candidat en marche.
Vous avez remarqué que c'était pas moi. Hein.
C'était pas vous, non, mais Jean-Philippe Agresti, donc candidat à l'investiture, qui n'a pas été choisi, puisque c'est vous qui avez été choisi, doyen de la fac de droit, mais qui a participé à un meeting, le premier meeting de Martine Vassal au Silo en juillet. Il y a des indices, quand même, du sommet de l'État à des marcheurs qui... en disant il faudra faire barrage aux extrêmes et donc peut-être s'allier et donc pourquoi pas avec Martine Vassal.
Vous avez vu que c'était pas moi qui déjeunais et qui suis allé à ce meeting. Vous avez vu par contre que c'était moi qui étais soutenu. Et à ma connaissance, je crois pas que Jean-Philippe Agresti soit marcheur. Donc après, vous voyez, vous essayez de comprendre tout ça, en tout cas...
Alors, est-ce que vous nous dites aujourd'hui, non,
vous savez, il n'y aura pas d'alliance avec Martine Vassal. Parce que j'adore leur avis, j'adore votre émission, je veux dire quelque chose. Franchement, ma vie aurait été plus simple, je l'aurais vraiment simplifiée, si j'étais allé vers des demandes qui auraient pu m'être faites.
Soyez plus explicite.
Oh, vous avez compris.
Quoi, le Parti communiste vous a proposé une alliance?
Je vais pas citer Jean-Luc Mélenchon, je vais citer Alexandra Louis à nouveau, hein, qui est une des députées marcheuses de Marseille, et qui disait ici même dans ce studio en mars dernier, il n'y a pas si longtemps, « Je ne projette rien avec LR à Marseille. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de la ville. Ceux qui n'ont pas fait avant, vont-ils le faire par la suite? Qui est satisfait du bilan ?» Que dit Yvon Berland de cette déclaration-là? Est-ce que vous êtes aussi catégorique? Ou est-ce que vous ne voulez pas injurier l'avenir?
Alors écoutez, d'abord, j'injurie jamais personne. Je l'ai dit dès que j'ai déposé ma candidature. Je vais pas rentrer dans les injures sur un tel. Ça ne m'intéresse pas.
Non, c'est pas des injures. Hein, ce que dit Alexandre Louis, elle parle de politique, elle parle pas de la personne.
Non, mais bien sûr. Mais ce que je voulais vous dire, pour préciser les choses. Mm-hmm. Après, par contre, je combattrai les idées, les orientations, les projets, ça, très fortement. Vous savez, quand même, ce qui est un peu paradoxal, hein, je comprends pas tout, la preuve, hein, c'est que je suis candidat, c'est pas rien, contre d'autres candidats, et on me dit non, mais en fait, vous êtes pour. Ça, j'avoue que c'est nouveau, mais j'apprends. Hein, j'apprends.
Non, disons qu'il y a eu des ambiguïtés au départ de votre campagne, En Marche.
Lesquelles?
Sur les alliances, sur le bilan.
Attendez,
les gens qui vont voter pour vous.
Qu'on me précise, oui, quelle ambiguïté précise, objective, il existe.
L'ambiguïté, c'est est-ce que vous êtes clairement dans une position de rupture avec un bilan, avec l'équipe des sortants, et
totalement.
Martine Vassal, avec ses qualités,
totalement,
incarne en fait
totalement.
La continuité. Est-ce que donc
totalement.
Il est envisageable de travailler avec elle ou pas?
Je suis candidat, par définition, contre d'autres candidats, dont Martine Vassal. Autrement, il aurait été, je vous assure, très simple pour moi, la vie aurait été...
La question des alliances va se poser forcément au deuxième tour.
La question des alliances va se poser secteur par secteur.
Et là,
aujourd'hui,
et à ce moment-là, vous
et là, je ne sais pas si vous avez le Front National, enfin le Rassemblement National, qui est premier, deuxième, Martine Vassal, qui a une difficulté pour l'avenir. Je ferai comme Christophe Castaner, hein. L'a fait à la région, ce qu'il ne faut pas oublier.
C'est retiré, Christophe Castaner.
Absolument.
Et est-ce que vous ferez
donc
la même chose?
Ça va dépendre de... Vous savez, on traite l'élection de Marseille comme si c'était une élection générale, je dirais. C'est pas du tout ça. C'est 8 secteurs qui vont compter, et des secteurs, vous connaissez bien la cartographie comme moi, très différents. Et faire des paris aujourd'hui sur tel ou tel secteur, moi, je ne sais pas le faire.
Et si dans un secteur, c'est la France insoumise qui est en tête, est-ce que vous auriez la même attitude que vis-à-vis du RN ? Est-ce que vous les mettez dans le même camp des extrêmes, ou est-ce que vous établissez une différence ?
Il y a deux extrêmes, avec une petite différence quand même. Mais il y a deux extrêmes pour moi. Mais il y a quand même une différence.
Alors, elle est de quelle nature, cette différence, pour vous ?
Ben, écoutez, vous savez, quand on dit qu'on ne veut pas faire des logements sociaux dans des parties de la ville, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible pour moi. Pas possible.
Yvon Berland, vous avez parlé des secteurs tout à l'heure. Il en est un que vous devrez nous en parler un petit peu, quand même. C'est celui où vous allez vous compter, vous présenter. Lequel ?
Vous le saurez demain, ou après-demain. Vous allez le savoir bientôt.
Ça ne sera pas pour ici. D'autres candidats déclarés disent être ouverts, comme vous, à des rapprochements, à des alliances, au-delà des critères partisans. Est-ce que des dialogues sont possibles, et est-ce qu'ils sont même engagés ? Alors, on peut les citer. Je pense en particulier à Samia Ghali, la sénatrice... Qui est aujourd'hui sans étiquette, qui n'est plus dans aucun parti, ancienne socialiste, et qui donc a présenté 152 propositions, et qui dit qu'elle est ouverte.
Moi aussi, je suis ouvert. Hein.
Alors, est-ce que vous allez vous rencontrer ?
Tout le monde est ouvert.
Est-ce que vous allez vous rencontrer, discuter, voir si... parce que personne ne va gagner cette ville tout seul. Il va falloir se rapprocher avec des personnes. Est-ce qu'elle est éventuellement compatible avec... votre démarche
Vous savez, j'apprends aussi, hein, j'apprends. On ne fait que me parler de personne, jamais de projet, de programme.
Si, elle le dit, elle dit, si vous êtes compatible avec une de ces 152 propositions, vous êtes le bienvenu.
Oui, alors je ne les ai pas toutes apprises par cœur, donc il faudra que je révise un petit peu.
Réhabiliter les écoles, créer un plan d'éradication du logement indigne, impulser la transition écologique,
ouais.
Tout le monde aura ce programme-là, hein.
Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que c'est très important ce que vous venez de mentionner. C'est-à-dire que les grandes têtes de chapitre, tout le monde va les avoir. Après, il y a regarder un peu le contenu et la méthode. Comment on va faire ? Et c'est ça qui pourrait faire la différence. Maintenant, sur tous ces sujets, bien évidemment, avec Samia, je peux pas dire que je suis contre, bien évidemment.
D'accord. Autre candidat, Bruno Gilles, qui est aujourd'hui lui aussi sans étiquette, autrefois LR, était même le chef du parti au niveau départemental. Bon, il n'a pas été investi, donc il a repris sa liberté. Il est candidat pour l'instant, il maintient sa campagne. Il est tout seul.
Je ne sais pas s'il est tout seul.
Non, il n'est pas tout seul. Il a des amis encore, quelques-uns.
Je ne sais pas.
Plus sérieusement, est-ce que là aussi, enfin, c'est la démarche qui a été appliquée au niveau du gouvernement.
Qu'est-ce que c'est qu'il y a dans le projet ? Est-ce qu'il y a des compatibilités ? Vous en avez signalé, là, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des incompatibilités majeures ou pas ? Voilà. Pour moi, c'est le projet, le programme. On ne parle, on revient. C'est pour ça que c'est nouveau, hein, ma présence. C'est un citoyen qui dit, moi, ce qui m'intéresse, ce que j'ai fait à l'université, c'est qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire. Après, si, vous savez, à l'université, je vous assure, il y avait des gens de droite, de gauche, qui étaient dans mes équipes. J'ai été élu la deuxième fois à plus de 80%. Parce que c'est pas un problème d'étiquette, c'est qu'est-ce que l'on veut faire, voilà, pour les étudiants en l'occurrence, pour la recherche, et là qu'est-ce qu'on veut faire pour les citoyens. Si on est d'accord avec un tel sur les programmes, sur les sujets majeurs, pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Alors pourquoi pas aussi Sébastien Barle, autre candidat déclaré écologiste, et qui dit je suis pareil, un peu
de
ni droite
manière,
ni gauche
de la même
aujourd'hui.
Manière, enfin, de la même de... manière, de la même manière, je vous assure. De la
l'écologie, même manière. C'est assez inattendu, peut-être par rapport à votre CV, en tout cas, c'était pas explicité. Vous dites que c'est clairement une de vos priorités.
Ah oui, non, mais vous pouvez pas dire que vous voulez être maire de Marseille, voir que sur plusieurs sujets écologiques, vous êtes dernier. Vous dites, c'est pas mon sujet, donc je. Bon, le problème, c'est pas mes sujets privilégiés.
C'est quand même pas un sujet de circonstance pour vous. Il y a un petit peu de conviction aussi, non ?
Tout à fait, de conviction. Et vous savez, là encore, je suis désolé, on m'a dit ne parle plus de l'université. Arrête de parler d'université. Dis que tu es docteur, c'est bien, mais arrête de parler de l'université. Mais j'ai fait tellement de choses sur ce sujet à l'université. Tellement de choses. Donc c'est pas de circonstance, quoi.
Le Rassemblement National, certains candidats en font clairement l'adversaire principal. Yvon Berland, en appelant au rassemblement, coûte que coûte. Vous aussi, votre ennemi principal, c'est le Rassemblement National, ou vous dites qu'il est surévalué et finalement, avançons avec le programme avant tout?
Voilà, moi je pense qu'il est surévalué. Et donc, ce qu'il faut, c'est convaincre les citoyens. Faut avoir... En tout cas, ça va être ma méthode, ma démarche avec mes équipes, c'est convaincre sur ce que l'on veut faire, parce que ne faire que parler des autres sans préciser ce qu'on veut faire, ça laisse une ambiguïté. C'est-à-dire que, bon, on n'est que négatif, mais incapable de proposer quelque chose. Moi, ce que je veux, c'est proposer quelque chose pour la ville de Marseille, et je pense que le rassemblement est surévalué.
Surévalué ? Vous pensez qu'il n'y a pas de risque qu'il s'empare d'un deuxième secteur, d'une deuxième mairie?
Je suis pas devin, mais je crois pas. Je crois qu'il faut avoir la conviction d'arrêter de parler du Rassemblement National, de parler de nous. Voilà. Les citoyens, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous nous dites rien, on va aller vers d'autres qui vont nous dire je sais pas quoi.
Vous, par exemple, personnalité qui vous présentait, qui avait beaucoup fait pour l'université, qui avait un coussin médiatique, vous pourriez vous présenter face au Rassemblement National dans son secteur, là-haut?
Dans le 13-14? Tout est possible. Hein. Tout est possible.
Vous le souhaiteriez?
Tout est possible. Hein.
Mais encore?
Tout est possible.
Qu'est-ce que ça dit pour vous, quand même, ce score qui est ancien de l'extrême droite à Marseille, qui a atteint souvent des niveaux très élevés dans cette ville? Qu'est-ce que ça dit de cette ville pour vous?
Et ça dit qu'il y a des sujets dont on ne s'est pas occupé. Allez, je vais vous donner un exemple. Je suis allé voir une école, c'était avant-hier. Bon. Cette école est dans des préfabriqués depuis 2004. On a construit une école neuve à côté, 50 mètres, et on a promis à ses élèves, à ses parents, qu'ils iraient dans cette école. Puis tout d'un coup, on leur dit, non, c'est pas pour vous.
Dans le secteur d'Euroméditerranée.
Absolument. C'est pas possible, ça, quoi. C'est pas possible. Comment voulez-vous que ces jeunes, un jour, respectent la République alors qu'on les a pas respectés? C'est pas possible.
Vous pensez que c'est ça qui génère la xénophobie?
Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est tous ces sujets. Les citoyens, ils ont envie qu'on les respecte. Voilà. Ils ont envie qu'on les respecte. Et ça, cet exemple, pour moi, je le connaissais pas bien. Hein. Vous savez, j'apprends plein de choses. Je ne l'ai pas cru, quoi. J'y suis allé, j'ai vu ça, j'ai discuté avec les mamans.
L'université est épargnée par ce qu'on appelle, qui est un phénomène aujourd'hui dont on parle beaucoup, le communautarisme.
Écoutez, pendant mon mandat, je n'ai pas été interpellé par ce sujet. Il y a eu à un moment donné quelques petites méfiances, mais par exemple, au cours des 4 dernières années le deuxième mandat, j'ai pas été interpellé et les doyens ne m'en parlaient jamais, quoi.
Michel.
Alors il y a eu, on a donné beaucoup de noms, mais il y a eu un maire à Marseille qui s'appelait Robert Vigouroux et qui était médecin, neurochirurgien, hein, c'était pas votre spécialité. Il était issu, il était sur une liste qui était pas partisane. Est-ce que pour vous, c'est ce maire-là, ce précédent-là, est un symbole, une référence ou pas?
On m'en parle beaucoup, après vous en parlez. Hein. Tiens, il peut refaire le coup de
Vigouroux.
De M. Vigouroux, qui était d'ailleurs un très grand neurochirurgien. Hein. Très grand neurochirurgien.
De vous, c'est plus bas, c'est la néphrologie.
C'est pas plus bas, c'est autre chose. Hein. Le cerveau est important, mais je vous assure que les reins, c'est important aussi. On m'en parle. Je pense qu'il a laissé finalement, avec le recul, il a laissé une bonne image parce qu'il a lancé beaucoup de projets. C'est un homme excessivement intelligent. Il a lancé beaucoup de projets et pourquoi pas?
Beaucoup de faits divers durant sa mandature aussi. On vous le souhaite pas, bien entendu, si vous êtes élu. Yvon Berland, on arrive au terme de cette émission. Vous serez un maire 100%, vous ferez votre mandat de maire à 100% ou vous êtes comme un certain monsieur Delevoye, vous présidez des think tanks, vous avez des mandats autres que ceux que vous aurez éventuellement à la mairie?
Non, alors vous savez, à ce jour, je vais être très transparent, à ce jour, je ne fais que présider bénévolement une association de traitement de l'insuffisance rénale chronique que je préside depuis 1986.
Yvon Berland, c'était pour La République En Marche et c'était soutenu par La République En Marche pour le mois de mars, les élections municipales. Allez, on se retrouve le mois prochain avec un autre candidat. Bye.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.